Salle du côté official, toujours au top optimal, avec mon petit verre de Sky, okay. Et me laisse aller me sur laisse un aller. Son de George Benson. Les stromboscopes font briller mes Jean-Marie Weston. À l'ancienne, je fais un petit tour sur moi-même. Dans la foulée, repère une jolie demoiselle. Toutes les femmes ce soir se sont fait belles. Sans aucun doute, je mets mon petit grain de sel.
N'abuse pas sur la boisson, je t'en prie, fais pas le con. Eh, hey, baisse d'un ton, j'ai acquis ta affaire, tonton.
Je suis avec Jano, mon Jack,
bossé un poteau. Ce soir, c'est relax, je suis avec mes Jack Poteau.
Si c'est si mal, je suis avec AP dans l'arrière-salle. Montez tous dans le golf. Et dans 5 minutes on remballe. Et tête calme.
Ce soir c'est le festival. En 2000 on met ça légal. C'est la totale.
Entre jackpot on donne ça.
Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Tactique, une ASBL tip top, c'est le sujet principal de l'émission du jour, la dernière de cette 9e saison de Libre à vous. Avec également au programme une chronique de Benjamin Bellamy qui nous partage ses conseils de lecture pour l'été. Et enfin un mot d'Antanax sur les Assises de l'Attention, une rediffusion de février 2026. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de plaidoyer pour l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 7 juillet, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion en podcast. À la réalisation de l'émission, eh bien moi-même, nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par le truc que presque personne n'a vraiment compris, mais qui nous concerne toutes et tous, de Benjamin Bellamy. Benjamin s'est fixé pour mission de rendre accessibles ces concepts complexes de notre société numérique. Il explique comment vivre dans un monde connecté en décryptant des aspects souvent perçus comme difficiles, parce qu'on nous a fait croire qu'ils l'étaient. Une chronique qui démystifie la technologie et qui nous encourage à mieux comprendre les enjeux numériques qui nous concernent toutes et tous. Dans ce nouvel épisode, Benjamin nous donne des conseils de lecture pour l'été.
Bonjour à toutes et à tous. Cette chronique est un peu particulière, c'est en effet la toute dernière avant les vacances, les grandes vacances. Je me suis donc dit que j'allais faire une chronique pour l'été, plus légère, pour la campagne, la montagne, la plage et le farniente. Donc j'étais au bureau, je prenais mon 4e café du matin, en train de rêvasser à des destinations de rêve à vous suggérer pour cela couler douce l'été, quand mon collègue Léo est venu m'agresser. Hey, « Eh mais Benjamin, en fait t'es un âne, t'es l'âne Benjamin, t'as la ref, tu vois de quoi je parle ?» Alors non, je voyais pas du tout. Mais si, t'es l'âne Benjamin dans la ferme des animaux, tu l'as lu? Alors oui, mais aucun souvenir. Bon ben, tu demanderas à ChatGPT. J'ai pas demandé à ChatGPT, je suis allé chercher mon exemplaire dans ma bibliothèque. Une édition bilingue, j'adore, ça me donne l'impression de l'être bilingue, alors qu'en vrai, c'est juste le livre qu'il est. Bref. En fouillant pour le retrouver, je suis tombé sur 2 ou 3 bouquins de plage, et je me suis dit que finalement, une sélection de bons bouquins pour cela couler douce aussi, mais avec un bon bouquin, ça serait mieux. Non. Des destinations de rêve, mais avec un bouquin. Bon, je vais faire les deux, j'arrive pas à me décider. Voilà donc non pas une, mais 2 sélections pour passer de bonnes vacances. Commençons par un classique, la Côte d'Azur. À Nice, la promenade des Anglais. 7 km de front de mer face à la baie des Anges, galets blancs, palmiers et lumières du sud. C'est aussi la ville la plus vidéo-surveillée de France, capitale autoproclamée de la reconnaissance faciale où vos vacances seront filmées en 4K. Et comme lecture, je vous recommande le Panoptique de Jeremy Bentham, publié en 1791, qui expose le projet d'une prison idéale où un unique gardien placé au centre peut observer tous les détenus sans que ceux-ci ne sachent jamais s'ils sont regardés à cet instant. Le simple fait de se savoir observable suffit à faire obéir. Et donc, on remerciera le Sénat qui a prolongé et étendu le recours à la vidéosurveillance algorithmique avec sa loi Riposte. Traversons la Manche, Londres, la Tamise, les théâtres à ciel ouvert. Les Anglais, leur conduite à gauche, leurs miles, pieds et pouces, leurs degrés Fahrenheit. Justement, un bon livre, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, publié en 1953. Un monde où les pompiers n'éteignent plus le feu mais brûlent les livres pour bloquer l'accès au savoir. Aujourd'hui, il suffit de planter un Cerbère électronique à l'entrée de chaque site et de réclamer vos papiers avant de vous laisser lire, ce que l'on appelle assez joliment la vérification d'âge. Cap au sud, Lisbonne, les tramways jaunes et la lumière sur le Tage, une vraie carte postale. Jusqu'au 28 avril 2025, quand toute la péninsule, l'Espagne, le Portugal et un bout de la France a basculé d'un coup dans le noir, 15 gigawatts évaporés en quelques secondes, plus de courant, plus de métro, plus de téléphone, plus d'internet. Comme lecture, format papier, un pas e-book, économiser les batteries, Ravage de René Barjavel, publié en 1943, où une société ultra-moderne s'effondre le jour où l'électricité disparaît. Et puisque c'est encore la Coupe du Monde, c'est l'occasion rêvée de bien pourrir son bilan carbone en allant outre-Atlantique direction la Californie. Menlo Park, dans la baie de San Francisco. Soleil toute l'année, séquoia géant, et à une heure de route le siège de Meta. C'est là qu'on fabrique le soma du 21e siècle, cette petite drogue de bonheur qui n'a même pas besoin de gélules, juste d'un pouce et d'un écran, et vous scrollez jusque la fin des vacances et même un peu après. Bon, comme lecture, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, publié en 1932, où l'on ne servit plus les gens par la peur mais par le plaisir, où tout le monde est content et c'est justement ça le problème. Et pour ceux qui trouveraient ça vieillot, le British Journal of Psychiatry décrivait cette année ce qu'il appelle la dérégulation de l'engagement algorithmique, l'attention en miettes et le petit vague à l'âme dès qu'on décroche. Pendant que vous êtes dans le coin, passez donc par Denver, Colorado, l'air pur, les montagnes rocheuses. C'est aussi là que Palantir a installé son siège social. Palantir, c'est cette entreprise américaine spécialisée dans l'analyse des données pour la police, les armées et les services de renseignement. Comme lecture, Minority Report de Philip K. Dick, une nouvelle publiée en 1956 où une unité de police arrête les criminels avant qu'ils ne passent à l'acte. Palantir fait mieux et son logiciel attribue à chacun un score de probabilité, une adresse probable, une présence probable, une dangerosité probable et on cible les gens sur la foi de ce calcul. L'algorithme précog dit ce que vous allez faire. Direction l'Idaho, le Grand Ouest sauvage, les montagnes rocheuses, les rivières à truites, les forêts à perte de vue, les grands espaces et la liberté. La liberté sauf si vous êtes une femme. L'Idaho a interdit l'avortement dès l'annulation de l'arrêt Roe et la police n'hésite pas à traquer la géolocalisation des téléphones. L'an dernier, elle a ainsi remonté les données d'un portable pour établir qu'une femme avait franchi la frontière et était allée avorter dans l'Oregon voisin. On lira donc La Servante écarlate de Margaret Atwood, publiée en 1985, une théocratie qui réduit les femmes à leurs fonctions reproductives sous l'œil d'un régime où les voisins se surveillent et se dénoncent. Nouveau continent, direction l'Afrique et le Kenya, les grands safaris, le Maasai Mara, les lions et les éléphants. Nairobi, la capitale, est devenue l'un des grands ateliers cachés de l'intelligence artificielle, là où des milliers de petites mains annotent nos jeux de données et modèrent les pires horreurs du web pour que nos IA nous répondent bien proprement. Dans La machine à explorer le temps de H.G. Wells, publié en 1895, le voyageur découvre que l'humanité s'est scindée en deux, les Élois, oisifs à la surface, et les Morlocks qui font tourner les machines dans le noir. Toute ressemblance serait fortuite. Cap sur l'Asie, Shanghai, les néons et les gratte-ciels de verre transparents. Transparent, c'est le mot parce que la Chine a la palme des villes les plus vidéo-surveillées du monde, la reconnaissance faciale à chaque carrefour et un crédit social qui note vos moindres gestes. Je vous recommande la lecture de « Nous autres » de Yevgeny Zamyatin, publié en 1924, un roman où les gens vivent dans des immeubles aux murs de verre, sans rien à cacher puisque l'on peut déjà tout voir. C'est du bon sens, si t'as rien à te reprocher, t'as rien à cacher. Retour à Paris, place de la République, la statue de Marianne, les terrasses au soleil, le point de départ de toutes nos manifs. C'est justement là qu'un manifestant a été identifié par reconnaissance faciale à la sortie d'un rassemblement. Comme lecture, L'incontournable 1984 de George Orwell, publié en 1949. Une enquête de Disclose a révélé en mars que policiers et gendarmes ont sur leur téléphone de service, depuis 2022, un logiciel de reconnaissance faciale branché sur un fichier qui couvre plus d'un quart de la population, en toute illégalité. Mais que fait la police ? Et pour finir, Bruxelles, la Grand Place classée à l'UNESCO, les gaufres, le Manneken Pis et, à deux pas, le bâtiment Europa, le siège du Conseil de l'Union Européenne. L'Europe y parle de chat control pour mettre fin à la confidentialité de toutes nos messageries. Dans La ferme des animaux de George Orwell, publié en 1945, les bêtes chassent leurs fermiers pour gouverner selon un beau principe d'égalité, écrit noir sur blanc sur le mur, avant que les petits chefs du nouveau régime ne repeignent discrètement les commandements pendant la nuit. Au Conseil de l'Union Européenne, le 26 juin, les États membres se sont mis d'accord pour ressusciter Chat Control, que le Parlement européen avait pourtant rejeté à une seule voix près, 3 mois plus tôt. Dans La ferme des animaux, Benjamin, le vieil âne, regarde passer la camionnette qui emmène son ami Boxer. Il déchiffre ce qui est écrit sur le flanc, et il comprend, Boxer part chez l'écarisseur, c'est fini. J'avais promis une chronique légère, et j'ai menti. Mais bonnes vacances à toutes et à tous, et surtout, restez vigilantes et vigilants, n'acceptez pas l'inacceptable, et n'oubliez pas de prendre un bon bouquin.
Eh bien, c'était le truc que presque personne n'a vraiment compris, mais qui nous concerne toutes et tous, de Benjamin Bellamy, que je remercie à distance parce que sa chronique était préenregistrée pour cette excellente chronique de fin de saison 9 de Libre à vous. Toutes les références qu'il a mentionnées seront rendues disponibles sur la page de l'émission libreavoue.org/282, parce que c'est la 282e émission. Nous allons à présent faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de Tic Tac, une association à but non lucratif, au top, tip top même. Et avant cela, nous allons écouter Oh My My par Two Bullets for the Devil et on se retrouve juste après sur Cause Commune, la voie des possibles.
I've got two bullets for the devil and another one for myself. When the time will come, I'll be prepared. I've got two bullets for the devil and another one for myself. When the time will come, I'll be prepared. Satan made me gamble and lose my home, my wife. He tricked me into drinking to forget about myself. The evil bastard ruined my life and my soul. But I swore can pay. I've got two bullets for the devil and another one for myself. When the time will come, I'll be prepared. I've got two bullets for the devil and another one for myself. When the time will come, I'll be prepared.
Écoutez Oh My My par Two Bullets for the Devil, disponible sous licence Libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. C'est Sebayasa.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer à notre sujet suivant. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui portera sur Tactic, non pas Tic Tac, Tactic, une association à but non lucratif, une ASBL qui défend le logiciel libre, un sujet qui sera animé par le seul et unique Laurent Costi, à l'épaule assez jolie, et si vous n'avez pas la référence, je vous invite à écouter ou à réécouter les chroniques qu'il réalise avec sa fille Laurette à cœur vaillant, la voix est libre. Mais trêve de parenthèse, je te laisse la parole, Laurent, à toi ainsi qu'à tes invités.
Merci beaucoup Étienne, bonjour à toutes et à tous. Donc depuis 2002, Tactic ASBL, ASBL pour Association sans but lucratif, nous serons donc en Belgique aujourd'hui, accompagne les associations et collectifs militants à l'adoption d'outils numériques libres, éthiques et durables dans une logique d'émancipation et d'appropriation collective et citoyenne des technologies numériques. Son action est orientée vers des offres d'accompagnement adaptées aux professionnels du monde associatif, l'éducation aux enjeux politiques et sociaux des technologies, la volonté d'autonomisation des publics et la démarche... j'ai mal pris mes notes. Démarche d'émancipation. On parlera aussi de domaine public et on vous expliquera pourquoi. Domaine public est une structure d'hébergement internet non marchande, indépendante et gérée collectivement par l'ensemble de ses membres. Elle veut favoriser l'autonomie dans la prise en charge d'outils informatiques de diffusion et de communication au sein d'un public large et notamment non spécialiste. Évidemment, on regardera le lien entre Tactic et puis domaine public. Bon, pour tout vous dire, on avait aussi pensé parler de Neutrinet, mais bon, il a fallu faire des choix et on s'est dit que ce serait le sujet d'une émission dans la deuxième partie de l'année civile. Voilà, on tease un peu. Pour parler donc de Tactic et de domaine public, nous allons accueillir aujourd'hui Cello. Bonjour Cello.
Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Laurent.
Et nous allons accueillir aussi HGO. Est-ce que tu es là?
Oui, salut Laurent.
Bonjour à tous les deux. Alors peut-être pour commencer, si vous le voulez bien, je veux bien que vous explicitiez un peu vos pseudos. Parce que HGO, par exemple, on a toujours tendance à penser que c'est un diminutif de Hugo, mais pas tout à fait. Je pense que c'est plutôt de l'oxyde de mercure, c'est ça?
Oui, c'est mes initiales en fait. Donc moi, mon prénom, c'est Adrien.
D'accord, ok. Et puis Cello?
Moi, c'était une contraction d'un ancien surnom qui était parce que je m'appelle Céline et des amis m'appelaient Céloche à un moment donné. Céloche est devenu Cello à un moment donné. Ouais, assez bête.
Cello, c'est quand même un peu plus joli que Céloche quand même. Très bien. Écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on expliquera après ce que sont Tactic et puis domaine public, mais peut-être que ça intéressera les personnes qui nous écoutent de savoir comment on arrive finalement à militer dans ce type d'association. Tu commences, Cello ?
Oui, moi en fait je suis arrivée au logiciel libre assez tardivement. J'ai fait une formation en sciences sociales et notamment en anthropologie. Et c'est au détour d'un séminaire d'anthropologie du numérique que je commençais à m'intéresser aux enjeux du numérique et que je suis arrivée à me questionner en fait sur le pouvoir des grandes entreprises du numérique et où j'ai basculé un peu dans le logiciel libre. Et voilà, et du coup je me suis beaucoup rapprochée de collectifs, d'abord Neutrinet en fait, parce que j'ai commencé à faire de l'auto-hébergement. Du coup en un sens on prend pas l'histoire dans le bon sens puisqu'on parlera de Neutrinet une prochaine fois. Mais voilà, je commence un peu à installer Linux sur mon ordinateur, avoir envie d'avoir un serveur, et utiliser avec Winhost, et c'est un peu comme ça que j'ai basculé là-dedans. Et puis finalement de fil en aiguille, j'en suis venue à travailler pour une association qui fait la promotion des outils libres et qui accompagne des collectifs et des structures à faire une transition numérique vers ces logiciels-là.
Merci. AGO ?
Moi, je me suis aussi intéressé au logiciel libre, mais assez tôt, on va dire, parce que j'ai fait des études d'informatique, donc je baignais déjà un peu dedans. Et dans les années 2010, je pense, Framasoft avait fait une de ses premières campagnes et j'avais entendu parler du logiciel libre comme ça. Mais pour en arriver à travailler chez Tactic, effectivement, c'est un peu comme Cello. Je suis d'abord arrivé via Neutrinet, donc aux questions d'auto-hébergement, mais du coup, on en parlera une prochaine fois. J'étais en questionnement sur est-ce que je voulais continuer à un temps plein dans un travail classique de gestion de serveur, etc. Et c'est l'autre qui travaillait déjà chez Tactic m'a dit « Ah ben, si tu veux, il y a une place qui se libère. En tout cas, on cherche quelqu'un Donc si tu veux nous rejoindre, tu es le bienvenu. Et ça m'arrangeait en plus parce que c'est moi j'avais envie de faire un peu une pause et de trouver un temps partiel. Et en informatique, c'est compliqué parce que gérer des serveurs, ça demande d'être présent tout le temps en fait. C'est même l'inverse d'un temps plein, on a de la garde, donc on a des heures le week-end où on doit être disponible. Et donc ça m'arrangeait un temps partiel. Et puis voilà, j'ai dit banco, voilà.
D'accord.
Donc c'est grâce à Célo en fait que j'ai rejoint Tactique, on va dire.
D'accord. Donc en fait, on a deux profils un peu différents. On a un profil très technicien informatique et puis finalement un profil qui ne vient pas du monde informatique. Et comment ça s'articule ça? Parce que je trouve ça assez intéressant. On rencontre souvent ce type de soucis-là. Quand les profils sont trop techniques, du coup, c'est compliqué de parler à des associations qui ne baignent pas dans ces problématiques au quotidien. Et à l'inverse, quand on n'a pas non plus les compétences techniques, c'est compliqué d'accompagner l'association vers quelque chose de libéré, etc. Donc du coup, c'est assez complémentaire dans vos fonctionnements. J'imagine évidemment que vous n'êtes pas les seuls, on y viendra. Mais cette complémentarité-là, elle s'articule bien au quotidien, j'imagine.
Oui, et je pense qu'en fait, on n'est pas les seuls au sein du coup de Tactique et de domaine public finalement à avoir des profils. Voilà, il y a une partie des gens qui ont des profils plutôt techniques, une partie qui vont avoir des profils moins techniques, et aussi pas mal de gens pour qui c'était pas le premier métier, pour qui c'était pas les premières études, qui plutôt comme moi, ils sont venus sur le tard, et effectivement avec une vision finalement très politique aussi de ce qu'on fait. Et qui effectivement se retrouve aussi dans la manière dont on va travailler avec des associations en mettant en avant pas seulement finalement des solutions techniques mais aussi des solutions qui ont certaines valeurs politiques et éthiques.
D'accord, merci pour cet éclairage. Alors du coup, on a déjà un peu dévoilé évidemment l'objet de Tactique et de domaine public, mais je vous laisse peut-être présenter respectivement les deux structures donc, qui sont des ASBL en Belgique. On commence par domaine public peut-être, même si vous êtes plutôt là pour Tactique.
Oui, en fait, les deux collectifs sont très liés. En réalité, les deux émanent d'une même mouvance qu'il y avait au début des années 2000 à Bruxelles, qui en fait était vraiment issue de luttes militantes. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur l'histoire. D'ailleurs, on parlera plus tard de notre journal et on a sorti un très bel article qui finalement retrace un peu cette histoire-là. Mais voilà, en fait, il y avait beaucoup de luttes militantes au début des années 2000 à Bruxelles, avec notamment le collectif Sans Nom, qui agrégeait d'une certaine manière différents autres collectifs. Pour les transports en commun gratuits, pour les droits des chômeurs, pour différentes thématiques qui n'étaient pas spécialement en lien avec le numérique, mais qui finalement, en fait, de ces luttes-là émanait le besoin à un moment donné d'avoir des outils déjà pour communiquer au sein des associations, mais aussi à des moments pour potentiellement protéger sa vie privée, parce qu'il y avait des militants et des militantes qui se retrouvaient sur écoute. Et du coup, l'envie d'avoir vraiment un peu ses propres infrastructures techniques qui est partie de là. Et en fait, ce premier projet collectif net a finalement débouché sur maintenant, on peut dire, deux projets plus importants que sont Tactique et Domaine Public. Domaine Public, c'est un projet d'hébergement qui s'est fait au départ aussi avec des gens à Liège, en Belgique, des gens de Bawet. Et qui visait à avoir une structure d'hébergement qui maintenant fait partie des chatons, mais qui était antérieure aux chatons. Je crois que j'ai envie de compléter.
Oui, et puis il faut savoir que dans les publics, donc, au début des années 2000, il y a toute une mouvance d'hébergeurs associatifs. Je pense à GlobeNet en France, l'autre net, et j'en oublie plein parce que je suis moins là-dedans vu que c'est en France. Mais donc tout ça, c'était à la même période suite à une structure qui avait dû fermer. C'est aussi à ce moment-là que des hébergeurs associatifs se lancent et donc que Domaine Public voit le jour. Et puis Tactique, par la suite, prend place plus parce qu'il y avait un besoin de faire de l'accompagnement d'associations, en fait. Le domaine public est vraiment l'hébergeur web et mail et tactique est plus orienté vers les, on va dire, de l'accompagnement.
Oui, c'est un peu, vous étiez un peu précurseur, si on regarde un peu ce qu'a fait Framasoft avec Emancipasso, finalement très vite vous avez identifié ce besoin de voir accompagner complémentairement aux propositions techniques, finalement.
Oui, je pense qu'il y avait aussi quelque chose de plus large dans le fait de proposer des ateliers, proposer des rencontres, des discussions, des débats sur des enjeux liés aux libertés numériques et sur des logiciels libres, en fait, à cette époque-là. Et du coup, tout ça s'est construit un peu avec et autour de cet hébergeur qu'est Domaine Public, qui existe toujours aujourd'hui comme hébergeur, mais voilà, où finalement, bah, maintenant, c'était les mêmes gens qui au départ étaient un peu dans les deux projets et qui se retrouvent un peu les mêmes gens aujourd'hui finalement à gérer les deux projets. C'est pour ça qu'on dit toujours un peu que c'est des ASBL, les associations sans but lucratif sœurs, parce que finalement, ben voilà, on travaille beaucoup, beaucoup ensemble et vraiment en synergie avec d'une part l'hébergement, d'autre part ben, ce qui vient se greffer autour. Effectivement, là-dedans est venu aussi le besoin pour des structures associatives d'avoir, alors d'abord ça pouvait être des sites web, ensuite ça pouvait être potentiellement un peu du parc informatique, il y avait aussi des radios qui avaient besoin, des radios locales qui avait besoin d'infrastructures et tout ça finalement a été pris en charge un peu par les gens à Bruxelles qui ont fondé ce qui est devenu Tactique, mais toujours vraiment en synergie aussi avec avec Domaine Public.
Oui, et alors sauf erreur, Emancipasso est très orienté éducation populaire et tout ça c'est venu après dans Tactique Domaine Public. Je pense vraiment, comme dit Célo, il y avait un besoin à remplir. Il y avait un besoin il y avait d'abord un besoin de mettre en place des outils et une infrastructure pour le monde associatif, et après, je pense, je sais pas si tu veux compléter, Célo.
Il y avait ce besoin-là, mais il y avait aussi tous ces aspects finalement très militants et de plus de sensibilisation qui étaient présents dès le début. Après, en fait, nous, on n'est pas super bien placés pour y en parler puisqu'on n'était pas là.
Oui, on est arrivé
à l'époque.
Oui,
mais on est arrivé bien plus tard. Après une période où effectivement, finalement, l'activité en fait de Tactique s'est recentrée beaucoup sur la prestation informatique un peu en tant que telle en logiciel libre, avant de se réouvrir avec maintenant avec le journal Curseur dont on parlera tout à l'heure, et avec d'autres activités de sensibilisation, d'éducation populaire qu'on va faire à côté, mais qui était déjà un peu dans l'ADN aussi de l'association et du collectif au départ.
Je vais vous faire part de mon ressenti. Donc c'est un ressenti, c'est pas du tout étayé, ça mériterait d'être un peu consolidé, mais en fait ça donne quand même l'impression que vous avez pris conscience, ou que ça s'est construit plus vite, cette question de l'accompagnement, qu'en France. C'est-à-dire qu'Emancipasso est arrivé très tard, et d'ailleurs on pourrait aussi questionner un peu l'activité de la plateforme en ce moment, et puis la réalité des actions, alors que finalement cette question de l'accompagnement avec Tactique entre autres est arrivée plus vite. Et du coup, l'hypothèse que je fais, c'est que justement parce que c'est parti de structures militantes qui avaient des thèmes extrêmement divers et qui n'étaient certainement pas les thèmes numériques au départ, ça aurait pu accélérer un peu finalement cette prise de conscience et ce besoin d'accompagnement plus et de formation finalement, ça aurait accéléré ça, quoi.
Mais je pense que tu as tout à fait raison. Enfin, après, moi j'ai moins une vision du coup sur la manière dont ça s'est déployé en France et sur Emancipasso en tant que tel, mais je pense qu'effectivement, et c'est peut-être une des spécificités aussi finalement de l'inscription de nos collectifs dans le milieu associatif en Belgique, c'est que c'est vraiment des collectifs qui se sont créés avec les luttes et très tôt, et pas finalement des choses qui ont émergé avec ces dernières années, potentiellement les révélations d'Edward Snowden, avec Trump, avec ce qui se passe aux USA, et finalement quelque chose qui était là précédemment, en fait, en lien avec le secteur associatif en Belgique et en particulier à Bruxelles.
Après c'est difficile de se dire dans les années 2000 comment c'était en France. Nous, on n'a pas trop l'historique de tout ça, mais je me dis aussi, après c'est du coup, pour le coup c'est un peu mon ressenti, c'est que à ce moment-là, dans les années, enfin à Bruxelles, l'aspect militant est très fort. Il se passe plein de trucs un peu partout. Il y a des associations qui se mettent ensemble, comme disait Célo. Et du coup, ça fait aussi un... Enfin, c'est un tout petit monde, quoi. Et le logiciel libre, c'est aussi un petit monde, je trouve, en tout cas, actuellement à Bruxelles, on croise toujours les mêmes personnes. Donc je me dis, en fait, qu'il y a eu quelques personnes qui, dans ce collectif militant, qui sont intéressées au logiciel libre à ce moment-là, et en fait, c'est parti comme ça, et comme il y avait déjà un réseau assez étroit de personnes, ça a pris quoi. Mais je peux pas te garantir qu'en France il n'y a pas eu des grandes villes comme ça où ça n'a pas été le cas.
Du coup, c'est une question effectivement que l'April regarde depuis le milieu des années 2000 justement. Un des autres éléments d'explication, c'est que finalement en France aussi il y a des grosses structures d'éducation populaire implantées, historiques. Je pense à la Ligue de l'enseignement, etc. Toutes ces structures là qui font que ces sujets là ont été appropriés par les structures, mais que du coup chacun les a traités à sa manière et que du coup on n'est pas parti d'un noyau, d'un collectif. Et visiblement la démarche n'est pas la même quoi. Je trouve ça intéressant à comparer. J'avais pas pris conscience de finalement ces différences d'approche et qui génèrent finalement quelque chose d'intéressant en termes d'accompagnement et de formation. Voilà, enfin c'est des petites réflexions entre nous, ça demanderait à être validé, un peu creusé, mais je trouve que se poser ces questions-là est assez intéressant pour comprendre comment parfois la formation, l'accompagnement et puis le logiciel libre peut se développer. Je vous propose peut-être d'étayer un peu ce que fait particulièrement Tactique, même si on l'a déjà un petit peu évoqué, mais au quotidien, au concret, c'est quoi finalement votre métier tous les jours? Racontez-moi votre journée un peu à Tactique.
Il y a beaucoup de trucs, on fait vraiment un peu de tout. J'entends parfois le nom de concierge informatique, c'est un peu ça. On gère des parcs informatiques donc pour les associations, donc on va gérer leurs ordinateurs qui en général seront sous Linux. Notre démarche c'est qu'il y ait un pas vers le logiciel libre. Donc parfois il nous arrive qu'on doive gérer du Windows ou du Mac. Mais la grosse majorité, c'est du Linux.
Ça représente combien d'ordinateurs, finalement?
D'ordinateurs, c'est difficile à dire. Moi, je tire une cinquantaine facilement. Mais c'est vraiment de tête. J'ai pas regardé les chiffres, on va dire.
Non, mais ça donne un ordre d'idée, parce qu'effectivement, déjà, quand on doit gérer son propre ordinateur tous les jours, déjà, c'est galère. Alors, quand il faut en générer 50...
Moi j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de 10 associations où on va gérer vraiment les ordinateurs, et dans ces 10 associations il va y avoir environ 5 à 10 ordinateurs, un peu moins parfois. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses.
En fait on travaille souvent aussi pour ces aspects-là avec potentiellement une personne dans la structure qui est une personne ressource aussi. Et bon, dans certains cas, cette personne fait juste le lien entre nous, mais dans d'autres cas, c'est aussi elle qui parfois fait un peu de technique et de maintenance de base aussi de certains ordinateurs. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est pas forcément évident. J'ai pas effectivement de chiffres en tête sur le nombre d'appareils. Mais voilà, parfois on est aussi un peu dans des zones de flou où il va y avoir aussi des gens au sein de l'association qui sont un peu, qui en fait sont versés aussi dans le logiciel libre et qui un peu portent aussi le fait que dans cette association là on a envie d'utiliser du libre et du Linux, et qui du coup s'occupent aussi de la maintenance. Il y a des associations aussi où on va être en collaboration avec d'autres structures en Belgique, je pense notamment à LibraFox qui est basé à Namur et qui fait du parc informatique sous Linux aussi. Et donc parfois nous on est sur finalement l'accompagnement et la maintenance des services un peu mail et cloud que nous on va proposer ou que les gens ont chez Domaine Public, et d'aller installer, maintenir ces logiciels là et même sous Linux, voilà, on n'est pas toujours les personnes qui géreront à proprement parler tout le parc informatique non plus.
Mais par rapport à cette personne-là que vous identifiez, que vous mentionnez au sein des structures, c'est quelque chose que vous demandez, que vous sollicitez, vous identifiez sur place, vous essayez d'avoir un relais, comment ça fonctionne? Parce que je suis assez convaincu, bon là encore c'est du ressenti, mais par expérience, je suis assez convaincu que la place de cette personne-là, elle est essentielle pour que la démarche s'ancre dans le temps.
Je dirais qu'honnêtement, ça dépend. et qu'après on n'est peut-être pas non plus les mieux placés parce que finalement bah, y a des assos qui sont dans cette démarche-là depuis plus longtemps que là où nous on est là, donc savoir effectivement au début qui a contacté qui, et donc la circonstance c'est un peu difficile, mais je pense que ça dépend un peu. Je pense en tout cas les associations où il y a vraiment du parc informatique sous Linux, c'est plus des gens qui bah voilà, où il y avait vraiment envie d'avoir des ordinateurs sous Linux et du coup de faire appel là nous un peu en appui finalement d'une démarche qui était là en interne et de ressources qu'il y avait en interne. Maintenant, comme tu dis, effectivement, enfin moi je suis plus du coup sur la partie, enfin, je suis un peu de parc informatique aussi, mais je suis beaucoup sur la partie accompagnement. Et je pense qu'en fait, il y a vraiment on voit vraiment que dans les structures, bah, c'est intéressant d'avoir quelqu'un aussi qui porte le projet et qui porte finalement le logiciel libre à l'intérieur de la structure pour que ce soit durable. Et en même temps aussi parfois le fait que bah, ces personnes-là font appel à nous par exemple pour de la formation ou certains accompagnements parce que finalement bah, c'est parfois difficile d'aller vers ses propres collègues de travail pour dire non mais en fait tu devrais faire comme ci ou comme ça avec l'outil. Enfin je sais qu'il y a des choses dont on a déjà parlé aussi par ailleurs à des moments tous les deux. Mais je pense qu'il y a un peu cet aspect d'importance d'avoir finalement une continuité aussi au sein des assos, mais que, voilà, qui s'articule aussi avec une présence un peu oui, plus.
L'intervention d'un tiers qui va venir dire les mêmes voilà. choses, mais qui viendra de l'extérieur et qui créditera justement les personnes qui essayent de défendre le truc en interne, quoi. Et comment ça fonctionne finalement la formation des professionnels dans le monde associatif en Belgique? Comment ça marche, les financements? Est-ce qu'il y a des c'est compliqué finalement à monter ou à convaincre de les associations? Est-ce qu'elles ont des enveloppes, des budgets? Je connais pas bien le monde.
Pour la formation, enfin pour la question budget, moi je peux te répondre, et après pour la formation je laisserai Célo parce que c'est plus elle qui fait l'accompagnement. Donc on a certaines associations qui ont un budget formation, donc ça va dépendre des conventions collectives de travail, enfin bref. Mais donc quand en général les associations dans le domaine socio-culturel vont avoir un budget formation et donc peuvent faire appel à d'autres associations dont nous pour être formés. Et ce budget, en fait, c'est bêtement une partie des cotisations des employés. Donc c'est pas mal, je trouve, comme système. Et après, ça va être sur fonds propres des associations, je pense, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de subventions dédiées à ça. C'est là où tu as plus d'infos.
Non, pas plus que ça. En fait, disons qu'on a en Belgique et la chance d'avoir, enfin, encore pour le moment, des subsides de l'État dans un domaine qui s'appelle l'éducation permanente, qui en fait rejoint finalement un peu ce qu'en France on appelle l'éducation populaire, mais qui en fait est un truc paradoxalement institutionnalisé où l'idée c'est d'aller aussi éveiller le sens critique des citoyens et des citoyennes. Et du coup on a pas mal d'associations finalement qu'on accompagne qui ont aussi ces subsides là et donc qui ont un peu des frais de fonctionnement et l'envie aussi d'avoir ben, potentiellement des outils un peu plus en cohérence avec leur visée finalement politique de par rapport à leur mission aussi d'éducation permanente. Maintenant, nous, on est beaucoup finalement dans la prestation informatique. Effectivement, pour les formations, il y a le fonds 4S. Maintenant, nous, on n'est pas reconnu vraiment comme organisme de formation non plus, au même titre que d'autres organismes de formation. En fait, on a plutôt des formations sur des outils qu'on va proposer. Enfin, au départ, c'est plus sur des outils qu'on va proposer. Par exemple, il y a une association qui veut utiliser un cloud avec du Nextcloud. Ben, on va accompagner les gens à prendre en main le logiciel, à leur expliquer les fonctionnalités basiques, à leur expliquer ce que c'est qu'un cloud, parce qu'en fait, dans un contexte où les GAFAM ont beaucoup facilité finalement l'usage des outils informatiques, bah, tout le savoir lié au fait qu'on utilise un serveur, que les données elles vont passer entre les ordinateurs via une machine qui est quelque part dans un centre de données, bah, en fait tout ça c'est souvent invisibilisé et du coup très mal compris par les gens. Et nous c'est beaucoup finalement aussi par rapport à ça qu'on donne des formations, même si on a aussi ponctuellement des formations plus génériques sur la transition numérique de manière un peu plus globale. Oui,
c'est la question que j'allais poser finalement. Quand vous intervenez sur très concrètement l'outil technique, il faut cliquer ici, ça fonctionne comme ça, etc. Ça veut dire que finalement la majeure partie des membres de l'association, qu'ils soient bénévoles ou salariés, sont déjà convaincus que de toute façon ils veulent engager une transition.
Mais en fait, ça dépend parce que souvent, c'est aussi le projet de certaines personnes ou d'une personne dans l'équipe. Oui. Et du coup, c'est intéressant aussi d'avoir une formation qui n'est pas juste apprendre aux gens ou cliquer pour aussi faire émerger finalement le pourquoi en fait on va aller vers d'autres outils, pourquoi est-ce qu'on va potentiellement aller vers des outils où ça va demander de prendre du temps parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes habitudes qui apparaissent au premier abord plus compliquées. Et moi, c'est maintenant un truc, dans ma pratique, on va dire à moi, un truc que je fais systématiquement maintenant, si je donne une formation sur du mail ou sur du cloud, je vais passer finalement au moins une quarantaine de minutes à aussi justement un peu redéfinir les termes de ça va être quoi un serveur, ça va être quoi un client, qu'est-ce qu'on entend par de la synchro, qu'est-ce qui se passe réellement. Mais du coup, au travers de ça, aussi amener des enjeux plus génériques sur avoir un serveur, ça consomme, des aspects impact environnemental. Le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre, donc en fait vous laissez des données, les gens, le prestataire informatique y a accès, que ce soit tactique, que ce soit dans le cas de Google, que ce soit Google, et finalement de mettre en avant ces aspects là ça facilite aussi la compréhension au sein de l'équipe pour dire
par expérience. Ouais, par expérience, je pense qu'il y a vraiment une précaution à prendre et de vérifier effectivement quel est le niveau entre guillemets de synchronisation des membres de l'association. Mmh. Parce que parfois on s'engage justement directement sur la partie technique en pensant que tout le monde est en phase, et en fait c'est effectivement la volonté d'une personne qui essaie d'embarquer tout le monde, mais ce préalable là politique, ce que tu expliques sur les enjeux Google, etc. Eh bien si c'est pas fait, du coup on se retrouve après avec des gens vraiment décalé sur les usages et des gens qui se comprennent pas au sein de la structure, et du coup ça n'ancre pas la démarche dans le temps. Bon voilà, ça c'est un peu par expérience, mais vas-y, je t'en prie, Géo.
Ouais, je voulais rajouter aussi que en fait j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience un peu depuis un peu moins de 10 ans de, en fait quand on passe au logiciel libre, on change l'outil de travail des gens. Et avant, en tout cas, moi, de ce que je voyais, c'était, oui, on va tout passer au logiciel libre et puis les gens se débrouilleront. Et sauf que, en fait, quand tu changes l'outil de travail, les gens, ils perdent des heures, quoi.
C'est sûr.
Et donc, il y a de la frustration, et du coup, il y avait des retours en arrière sur des outils propriétaires. Et je pense que, c'est une bonne chose, en fait, dans le milieu du logiciel libre, mais même dans l'associatif en général, en dehors du logiciel libre, il y a une prise de conscience de ça. De se dire si on passe au logiciel libre, en fait il faut de la formation. Et en tout cas, nous quand on propose de passer en logiciel libre, quand on propose des outils, on demande est-ce qu'il nous faudra de la formation. Et la plupart du temps, ils nous disent oui, c'est une bonne idée.
Très bien. Donc, on va bientôt faire une pause musicale. Peut-être qu'avant la pause, pourriez nous préciser un peu les publics cibles de Tactique.
Moi, juste avant les publics cibles, en fait, parce que là, on est beaucoup parlé, comme tu as posé la question sur nos journées types et que nous, on est quand même beaucoup dans les aspects de maintenance, parc informatique et moi, accompagnement, on a un peu répondu là-dessus. Mais on va dire plus globalement, Tactique va aussi proposer, je mentionnais tout à l'heure des sites web, donc on fait potentiellement des sites web pour les associations. On fait à des moments de l'hébergement parce que souvent, on s'appuie sur domaine public, mais on va avoir certaines structures, notamment. Et du coup ça rejoint la question du public, des écoles pour qui potentiellement c'est des plus gros besoins que ce que va proposer un hébergeur mutualisé comme domaine public. Donc on va aussi installer à des moments nos propres serveurs avec des serveurs dédiés pour une grosse structure ou par exemple une école.
Et quand on parle d'école, pour l'instant c'est essentiellement des écoles d'art. Donc il y a aussi une conscientisation là-dessus du logiciel libre, je trouve, dans ce milieu.
Ouais, et aussi à des moments un peu de développement web, même si c'est vraiment pas ce qu'on fait le plus. Mais par exemple, justement, pour les écoles, on a développé en interne un LDAP qui va permettre d'aller chercher des données du système belge des données administratives des profs et des élèves qui s'appelle ProEcho pour aller les balancer dans un système qui va créer les comptes Nextcloud et puis des différents services internet qu'on va proposer pour les écoles. Donc voilà, on est un peu là, on a beaucoup parlé d'accompagnement et de parc informatique. On a aussi finalement une activité un peu plus globale au sein de l'association. Et effectivement, nos publics, du coup, ça va être principalement les associations, les collectifs, ce type de structure, mais aussi du coup des écoles, notamment écoles d'art.
Juste pour préciser, l'outil dont tu parlais, ça forme un portail étudiant en fait pour que ce soit plus concret. C'est vraiment les étudiants, ils ont accès à toutes leurs applications, que ce soit le cloud, la plateforme de cours, etc. Et les profs et l'administratif ont accès aux permissions et aux données des étudiants.
Très bien, ça représente combien de structures finalement? Une cinquantaine, ça rejoint le nombre de parcs de tout à l'heure à peu près?
Nous, dans les associations, c'est difficile. Il y a des associations où on fait beaucoup pour eux, il y en a où c'est ponctuel. Mais je pense qu'on est sur une centaine d'associations facilement dans Bruxelles et un peu autour.
Associations, écoles et d'autres personnes, quoi.
Okay. C'est très très large comme réseau et c'est difficile à quantifier, je trouve.
Très bien. Bah écoutez, je vais passer la main à Étienne qui va passer la petite pause musicale.
Merci Laurent. Et merci pour cet échange qui pour le moment en tout cas me passionne. Effectivement, une petite pause musicale. Nous allons écouter Revel par Shelby Mary. Et on se retrouve juste après, toujours à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Thank you.
Nous venons d'écouter Revel par Shelby Mary, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. C'est Sabayasa.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Vous écoutez Libre à vous, nous sommes mardi 7 juillet et Laurent Costi anime un sujet qui porte sur l'association belge Tactique et non pas Tic Tac avec Cello et HGO. Je leur rends la parole.
Merci Étienne. Donc on reprend effectivement avec HGO et Cello. Alors vous avez effectivement décrit tout ce que faisait Tactique. On imagine avec toutes ces actions que vous êtes au moins 40 et que vous avez un budget de 240 millions d'euros. Vous confirmez?
Ouais, bah, bof.
Non, on est environ 10 dans l'association. Et on est tous quasiment tous en temps partiel, il y a un temps plein. Donc en équivalent temps plein, pour dire des gros mots, on est plutôt autour de 5-6. Donc voilà, et en termes de sous, on a un des employés qui est un subside Marie-Belle, qui est une aide à l'emploi en fait, qui est bêtement une aide à l'emploi.
Oui, c'est ce qu'on appelle subvention en France, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais. Mais le Marie-Belle est une subvention dédiée juste pour employer quelqu'un. Donc alors je ne sais plus quelle entité en Belgique qui fait ça, enfin qui fait ça, je crois que c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles, si je ne dis pas de bêtises, c'est eux qui versent les sous en fait pour payer son salaire et rien d'autre. Donc ça fait déjà une personne qui est payée. Et après, bah, ça va être de la prestation de service, on en a parlé. Et on a un tout petit subvention, c'est le même mot, en éducation permanente. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu l'équivalent de l'éducation populaire, sauf que c'est institutionnalisé. Et là, on avait demandé de pouvoir payer au moins un temps plein, donc on visait beaucoup plus que ce qu'on a, mais on a eu 10 000 euros et on visait 100 000 euros, je pense, quelque chose comme ça. On a eu l'information le mois passé, donc on est à la fois un peu déçu et content quand même d'avoir quelque chose. Et donc ce subside-là était dédié pour travailler sur le journal Curseur, dont on parlera tout à l'heure.
Alors j'ai deux questions pour conclure ce point, puis après on va passer à Curseur, mais du coup, à savoir si les ETP, les temps de travail sont contraints ou s'ils sont choisis, si les personnes ont vraiment choisi de travailler à temps partiel. Et puis après, l'autre, c'est presque une private joke par rapport à vos ressources propres. Vous suivez bien les factures ou les ressources que les adhérents vous doivent, hein? C'est juste pour comparer avec Neutrinet et puis le VPN que moi, par exemple, j'ai et que on me réclame pas et que j'oublie que je dois le payer. Voilà, c'était juste pour savoir. C'est une private joke.
Alors oui, ben en fait c'est toujours un peu le problème d'être une asso partie militante aussi, parce que voilà, la facturation parfois un peu du mal à suivre, mais voilà, bon, globalement, ben on va dire l'essentiel, finalement, nos revenus sont quand même de ce qu'on facture pour de la prestation informatique, donc on est quand même un peu contraint de suivre ça, un peu mieux que dans Neutrinet, qui est une association avec que des bénévoles. Donc oui, on est quand même dans une autre démarche avec ça.
Ceci dit, on a encore du travail à faire sur le fait de bien suivre tout ce qui est prestation d'heures, enfin de service, donc quand on va faire du boulot. Pour une association, etc. Donc on a encore. Enfin, ça reste complexe, quoi.
Oui, puis ça reste pas le. Non, mais on le sait, ça reste pas le cœur de métier des associations. C'est pas le côté le plus passionnant qui passionne les bénévoles et les salariés, bien sûr. Non, mais je me moquais un peu parce qu'on avait été.
Non, mais il y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est là on est 10. Il y a 5 ans, je pense que on était moitié moins. Peut-être, voilà. Et en fait, c'est pas la même chose de travailler à 10 et d'essayer de se coordonner, de savoir qui a fait quoi pour telle assoc et avec qui à l'assoc on travaille, etc. Chacun un peu. Et donc si on est en train de se réorganiser un peu pour mieux suivre tout ça. Donc c'est vraiment un boulot à part entière.
On vient aussi d'une situation où en fait les personnes qui travaillaient pour Tactique, c'est avant que moi j'arrive ou que Adrien soit là aussi, mais en fait les personnes qui travaillaient pour Tactique à des moments aussi ben facturaient en fait un peu chacune leur propre service finalement de ce qu'elles faisaient, et là on en passe dans une gestion beaucoup plus collective aussi de cet aspect là où on travaille aussi à plusieurs sur les mêmes projets, et donc on est en train de s'améliorer aussi sur les aspects de
work in progress comme on dit en anglais. Donc pour la question ETP choisie, j'ai une question d'Étienne dans le chat aussi qui demande si vous avez fixé à 10 ce nombre, est-ce que c'est un plafond ou est-ce que finalement en fonction des opportunités vous envisagez aussi de continuer à développer?
Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu des deux. Moi quand je suis arrivé, c'était en fonction de si on a des sous pour pouvoir embaucher, on embauche. Et c'est un peu quel est le temps de travail que tu souhaites faire dans l'équipe, voilà. Donc moi je voulais faire un temps partiel, donc bah voilà, on m'a dit bah ok, ça devrait passer si tu prends je sais pas moi un mi-temps. Et puis voilà. Mais il y a ça, et après il y a aussi la réalité associative qui fait qu'il y a certaines personnes qui vont dire qui sont payées par exemple à mi-temps et qui vont pas faire un mi-temps, qui vont faire plus. Et donc voilà, on essaie aussi de gérer ça. Mais je pense que c'est un peu partout. C'est à quel moment s'arrête le côté militant et le côté salarié. Et même dans des boulots typiques, à quel moment s'arrête ton boulot? Enfin, on parle du droit à la déconnexion, enfin, je vais pas rentrer là-dedans, mais c'est vraiment de plus en plus difficile de s'arrêter, de se dire, ok, en fait, j'ai fait mes heures, et oui, voilà. Et c'est encore plus difficile, je trouve, quand c'est une association qui est chouette et qui, on a la chance de notre militantisme est payé, en fait. Enfin, je sais pas comment le dire, mais. C'est un peu, en fait, on a envie de faire plus, quoi, mais aussi d'être d'épuisement et tout. Et puis, il n'y a pas que Tactique dans la vie, il y a aussi notre inette. Il y a d'autres trucs, et donc, forcément, il n'y a que 24 heures, quoi. Donc, voilà.
Je pense qu'il y a vraiment ça, parce que, enfin, par rapport aussi au fait un peu de financer son militantisme, entre guillemets. Enfin, moi, quand je suis arrivée chez Tactique, on m'a un peu dit, tiens, ben voilà, on a un peu d'argent pour engager potentiellement, voilà, mais de quoi t'aurais besoin finalement pour vivre et voilà, et avoir finalement un revenu qui convient pour toi. Et c'était moins finalement, on va dire, ben on a besoin d'engager une personne à temps de temps que tiens, ben en fait cette personne là moi je voulais aussi potentiellement être à temps partiel pour avoir d'autres projets, enfin parce que j'ai d'autres projets aussi, mais voilà, c'était un peu la question de tiens, ben en fait qu'est-ce qu'il faut finalement pour que tu vives correctement entre guillemets, et après ben voilà, après ben
on trouve
le... c'est un peu le temps de travail en fonction de ça, et on s'organise aussi en fonction de ça, en sachant que voilà, bah, comme disait AGO, bah, on est soucié des assos, on a toujours tendance à en faire plus. Donc moi, le 3/5e formel sur lequel je suis actuellement reflète pas forcément le travail que je mets, et notamment dans des projets comme le journal dont on va parler incessamment sous peu. Mais voilà, c'est aussi finalement une vision d'un peu du militantisme et de ce qu'on a envie de faire en fait aussi pour finalement comme engagement vis-à-vis d'une forme de vis-à-vis de commun ou d'engagement plus militant, quoi.
Mais après j'ai quand même l'impression que dans l'équipe on y revient un peu de ça, de se dire en fait si, avec le curseur on a quand même eu un épuisement là-dessus, et en fait on se rend compte que l'énergie et le temps n'est pas infini.
Curseur, et, justement, coup, je me permets de, ouais. Je me permets, il faut qu'on en parle, hein, parce que évidemment on tease depuis 20 minutes là maintenant. Je vous propose effectivement d'aborder ce sujet. Alors curseur, alors en plus je fais une référence à l'émission 234, puisque Vincent Calame, qui fait des chroniques régulièrement sur Libre à vous, a fait sa chronique justement sur le thème de curseur, mais vous allez nous expliquer ce qu'est curseur, puisqu'on en parle depuis le début de l'émission. Dites-nous.
Ben, du coup, donc c'est un journal qu'on a commencé à publier en 2023.
Un journal papier.
Un journal papier sur le numérique, parce qu'on voulait, voilà, on voulait...
Papier ?
De manière un peu autrement que les autres. Non, en fait, bah, finalement, je disais tout à l'heure que, voilà, on parlait de ce subside en une éducation permanente en Belgique, et en fait, et je disais tout à l'heure que il y a eu une période où finalement, bah, les activités de tactique, domaine public étaient très centrées un peu sur la technique, et il y a eu un moment où il y a eu envie de rouvrir finalement à des activités ben, potentiellement aussi un peu plus militantes, un peu plus politiques, et du coup ben, en Belgique ben, c'est potentiellement le moyen finalement de dégager du temps, y compris du temps de travail, c'était d'avoir ben, ce subside là donc en fait Curseur s'inscrivait aussi nous entre guillemets dans notre stratégie pour avoir ce subside, même si c'était aussi une envie ben, de faire un truc qu'on, voilà, où on se disait ben, voilà, il y a beaucoup de blogs finalement qui vont aborder certains enjeux liés au numérique, mais pour les gens qui ne sont pas forcément familiers d'aller chercher de l'info sur des blogs, sur des sites un peu spécialisés, bah, c'est pas forcément facile d'accès. Et du coup, il y avait l'envie de faire bah oui, un journal papier qui soit vraiment un objet qu'on puisse laisser dans des lieux associatifs, qu'on puisse donner lors d'événements pour qu'en fait bah, créer un accès finalement à des contenus thématiques que les gens ne voient pas forcément. Ou pas facilement finalement dans un journal papier. C'est un peu comme ça que le projet est né. On s'est réunis une première fois avec aussi des gens d'autres assos qui potentiellement faisaient un peu des publications en Belgique aussi dans le cadre de l'éducation permanente. Et puis bah, progressivement, voilà, il y a une petite équipe qui s'est construite autour du journal qui, voilà, enfin, faut le dire d'emblée, est portée ben, quand même beaucoup par des gens qui sont salariés de tactique. Comme nous, mais aussi quand même aussi beaucoup par des personnes vraiment bénévoles qui sont, je vais pas dire extérieures, parce que ben, au fil du temps, quand on est dans un projet ou ce qui demande autant d'engagement, ben, on est quand même aussi dans des gens avec qui on est très proche, mais voilà, qui sont venus donner de leur temps pour faire ce journal-là. Avec le fait que bah, c'est des gens qui potentiellement écrivent dedans des contenus, mais aussi à des moments participent vraiment à la coordination du journal.
Ouais, les réunions de rédaction sont totalement ouvertes, et donc en début de cycle, donc la Curseur a commencé comme un semestriel. On est en train de, on est en discussion en fait pour savoir si on garde un semestriel ou si on fait tous les ans. Donc on a un peu décalé la sortie du dernier numéro. Et du coup, bah, en début de numéro, on fait justement un appel à participation pour avoir des articles, parce qu'on en écrit, mais on va dire que c'est un quart de Curseur, peut-être un tiers, je ne sais pas trop. Enfin, la grosse majorité, c'est quand même des gens extérieurs à Tactique et à Curseur qui... Enfin, comme des gens de Curseur, mais extérieur et tactique qui écrivent dedans. Et puis, du coup, tout au long du parcours, ils vont participer à agencer les articles, donc ce qu'on appelle le chemin de fer dans l'édition, les relectures orthographiques, beaucoup, beaucoup de relectures orthographiques. Enfin voilà, les choix aussi, est-ce que combien, quelle taille pour tel article, ça, tout ça, on n'a pas comme problème quand c'est en ligne. On a un certain espace disponible et on peut pas faire plus. Donc voilà. Et la thématique du prochain numéro, ça c'est aussi discuter collectivement avec les gens qui sont pas dans Tactique. Donc voilà, non, c'est très chouette comme projet.
Combien de personnes quand vous faites le comité de rédaction là? Combien de personnes finalement se rassemblent?
Je dirais qu'on a une dizaine de personnes qui sont vraiment très actives. Après, ben voilà, ça peut, en fonction des numéros, des thématiques, du temps que les gens ont, ça varie parfois un peu sur qui est le plus impliqué, mais on a une dizaine de personnes qui s'impliquent beaucoup, et je dirais qu'on a une vingtaine de personnes qui gravitent quand même de manière proche en écrivant, qui ont écrit plusieurs fois des textes dans le journal, ou qui ont participé à des journées de relecture, parce que ça parfois c'est aussi d'autres personnes qui potentiellement bah, disent ouais, moi je veux pas écrire, je connais pas assez bien pour vraiment suivre le journal, mais j'aimerais relire, tous ces aspects là
et aussi on accompagne en fait les auteurs, autrices quand ils font leur article, on reçoit un premier jet et en fait on va faire plein de commentaires qui fait parfois un peu peur d'ailleurs, et après et en fait on améliore en fait comme ça les articles, et ça quelque part c'est un peu ça aussi qu'on essayait de mettre en avant, qu'on essayait d'avoir notre subside, c'est que quelque part c'est aussi ça fait partie de l'éducation permanente slash populaire d'apprendre à écrire dans un journal, et enfin d'apprendre à écrire même dans le sens un article construit, etc., et bien rédigé.
Si on prend les sujets des dossiers à chaque fois, alors il y a 6 numéros, je crois, c'est ça, jusqu'à ce jour. Ouais. Donc le coût du confort, donc là c'était particulièrement ciblant le smartphone, éducation, la pression numérique, donc enjeu entre éducation, école et numérique, le prix de la gratuité, donc la gratuité, modèle économique du numérique propriétaire et du libre, la matérialité du numérique, donc tous les impacts environnementaux, dans les tranchées du numérique, le lien entre le numérique, guerre, conflit et surveillance, à quoi rêve le numérique, donc le numérique qu'on aime, logiciel libre alternatif. Là, c'était pour donner, illustrer un peu ce que peuvent être les sujets centraux. Alors évidemment, après, il y a plein d'autres articles. Quel logiciel vous utilisez pour composer finalement Curseur?
Alors, c'est un journal qui est fait avec Scribus. Ça a été un projet qu'on a proposé initialement pour le tout premier numéro à des étudiants et des étudiantes en master de typographie à La Cambre, qui ont fait, on va dire, un peu la mise en page avec Scribus de ce qui est devenu Curseur. Et c'est d'ailleurs toujours une étudiante qui met en page Curseur sur base finalement du travail qui avait été réalisé. Et c'est toujours Scribus qui est utilisé. On a exploré quelques autres pistes, notamment avec des choses du type HTML to print, PGS, mais finalement on est resté pour le moment en tout cas à Scribus qui
répond.
Et pour nous c'est aussi important, intéressant de faire ça avec du logiciel libre, puisque même si le journal se veut pas seulement un journal qui va parler de logiciel libre, on est quand même on vient de là, on promet les logiciels libres et on trouve intéressant aussi de les utiliser dans ce cadre là.
Alors, j'ai pas regardé dans le détail les licences attachées aux productions et aux articles. C'est quelles licences qui sont utilisées?
Alors, en général, ça va être CC BY-SA.
D'accord.
Si je me trompe pas, non? CC BY-SA NC, pardon.
Voilà.
Donc non commercial. Et c'est ça. Et celle de Cello, entre autres, mais certains auteurs, notamment Eric, qui mettent sous CC BY-SA, il y a une réflexion là-dessus, peut-être tu vas en parler.
Ouais, c'est ça que je voulais savoir, comment le collectif finalement a abouti à cette conclusion-là. Vous sachant tous les deux très libristes et convaincus du CC BY-SA, comment finalement on arrive à un compromis, comment on est obligé finalement de faire peut-être une étape intermédiaire avant, peut-être à terme, que des articles en CC BY-SA. Enfin, je pose la question de comment vit le collectif par rapport à ça. Comment se construit le collectif?
Alors très honnêtement, moi je me rappelle plus complètement des discussions qu'il y a eu au début par rapport à ça, parce que c'est venu dans l'immense tout de créer un journal pour la première fois. Et du coup je ne sais plus exactement tous les arguments qui étaient avancés, mais je pense qu'à l'époque moi-même j'avais tendance à publier sous CC BY SANC. Parce que je voyais un intérêt de dire voilà, on crée quelque chose qui est potentiellement pour tout le monde et qui refuse l'usage commercial du truc. Finalement, moi j'ai un peu changé de position là-dessus parce qu'en fait je me rends compte que c'est trop restrictif, et qu'en fait dans commercial il y a des usages que je cautionnerais tout à fait. Mais voilà, après moi du coup j'ai un peu cheminé par rapport à ça. On n'a pas reposé la question non plus collectivement. Du coup, j'ai pas vraiment envie d'engager une réponse sur on avait ça parce que ça, ça et ça, parce que je pense que c'était différentes discussions, peut-être d'ailleurs qu'on pourrait reposer aussi la question.
Ouais, c'est clair, il n'y a pas eu de discussion à nouveau là-dessus. Moi, je suis arrivé après le numéro 1. Donc la question était déjà, on va dire, tranchée, mais c'est juste que plus une question de temps d'ouvrir la discussion qu'autre chose. Mais après, il y avait aussi, je pense, des arguments pour le non commercial, et notamment juste pouvoir choisir en fait qui peut repartager avec en commercial, c'est déjà pas mal. Je veux dire, ça n'interdit pas le commercial, ça dit juste nous on veut pouvoir choisir qui en fait quelque chose. Mais c'est vraiment une question qu'il faudrait qu'on pourrait avoir dans le collectif. Je ne sais pas si c'est la question prioritaire, je crois pas. Je pense qu'actuellement c'est plus le financement de curseur justement.
Oui, parlons-en.
La question que la licence. Mais... Et oui, et du coup, le financement de curseur, ben, moi je disais tout à l'heure qu'on espérait avoir un subside pour travailler sur curseur et avoir 100 000 euros, on a eu 10 fois moins. Donc ben, là, on a lancé un financement participatif sur Ulule. D'ailleurs, là on visait 7500 euros et j'ai regardé tout à l'heure, on est un peu plus, on est à près de 7000, je crois 6700, quelque chose comme ça. Donc on y est presque et il se termine dans 2 semaines, donc allez-y. c'est un appel aux dons et un appel aux abonnements en fait, parce qu'on se dit que si on a des abonnements, ça permettra aussi d'aider à pérenniser le projet.
Donc on mettra le lien sur la page de l'émission. Par contre, ça l'échéance, c'est quand? Oui, on n'aura peut-être pas le temps de publier
Attends, je l'ai devant moi. Comme ça, je dis pas de bêtises. C'est dans 18 jours, très exactement. Dans 18 jours. Donc on a des contreparties et effectivement, enfin, et du coup on livre en France et les abonnements en fait de base on avait réfléchi, on livre partout, c'est juste que les coûts de livraison sont un peu différents. Alors bon, pour le moment, enfin jusqu'à présent ce qu'on a fait c'est un stratagème, on prend une personne qui va en France un jour. Et qui va poster tout en France parce que ça nous revenait moins cher que de poster depuis la Belgique, parce que c'est 15 euros d'envoyer un curseur depuis la Belgique, donc ouais. C'était pas viable. Donc voilà, on a des petits humains qui font le trajet vers la France et qui livrent les curseurs à la poste.
Combien de tirages vous avez fait des numéros?
Vas-y, parce que
on est donc à 5000 exemplaires de chaque numéro pour le moment, en tout cas c'était ce qu'on avait décidé et qu'on a fait. Maintenant voilà, on est c'est en train beaucoup. De réfléchir aussi justement dans les coûts. Oui, ça fait pas mal, mais l'idée en fait c'était vraiment d'avoir de pouvoir avoir ce journal qui soit aussi diffusé assez largement. Or maintenant on essaye aussi à des moments de le proposer à prix libre mais voilà, le but c'est aussi qu'il se diffuse et qu'il soit trouvable dans tout un tas de lieux, comme je disais, où en fait de pouvoir finalement mettre dans les mains des gens une voilà.
Dans les boîtes à livres, vous en mettez?
Dans les boîtes à livres, non. Bah, après, c'est pas vraiment. Enfin, si quelqu'un veut le faire, il le fait. C'est plutôt ça, je pense. Nous, on met dans des lieux associatifs et dans des collectifs, et eux après redistribuent.
Écoutez, le temps file, hein, j'en suis vraiment désolé. Il nous reste 4 minutes, grand maximum, parce qu'après je vais me faire disputer par Étienne. On devait aborder tout l'écosystème des associations libres en Belgique. Bah, on fera une émission, hein, c'est pas très très grave ça. Du coup, ça permettra de vous réinviter. Je sais pas, moi je vous laisse deux minutes chacun pour dire ce que vous avez envie de dire, compléter, ce que vous avez pas eu l'occasion de dire, etc. Qui conclut.
Juste pour curseur, si je voulais mentionner que si besoin, on peut livrer des colis aux associations qui veulent promouvoir curseur, mais aussi le logiciel libre, parce que c'est aussi pour ça, le numérique émancipateur, tout ça. Donc voilà, on peut aussi livrer sur demande.
Ouais. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je sais pas, en vente libre, non, je sais plus comment. Non, je sais pas où on en est.
Je pense qu'on a déjà, exploré, et il y a sûrement mieux, mais pour l'instant c'est ce qu'on fait. Je sais pas, mais du coup pour ta question
juste par rapport à curseur, parce que là on a mentionné les thématiques, donc dans chaque numéro on a un dossier thématique, on a aussi des contributions hors dossier. Je trouve intéressant de mentionner aussi que je mentionnais les étudiants de la Cambre avec qui on a travaillé pour le premier numéro, mais on travaille aussi à chaque fois avec des étudiants et étudiantes en illustration d'une autre école d'art à Bruxelles pour les illustrations des numéros, ce qui fait qu'en fait chaque numéro va avoir aussi un peu une identité différente, parce que c'est une autre personne en fait qui l'a illustré, et du coup c'est un truc que je trouve assez chouette aussi dans ce projet là de se dire que chaque numéro c'est aussi quelque chose un peu à part. Voilà.
On retrouve les numéros aussi en version numérique après leur publication papier, on est d'accord, hein.
Oui, c'est ouais. Juste que ça nous prend du temps, parce que quand on copie-colle de Scribus vers, vers ailleurs, en fait, on perd les italiques et tous les petits formatages comme ça, donc on doit remettre les italiques. Donc c'est plus une question de est-ce qu'on va avoir un train pendant 2 heures et on fait ça.
D'accord.
Voilà.
Bah, le train pour
mais
emmener.
Oui, l'idée, c'est qu'il soit publié.
Les trains pour emmener ouais. Les exemplaires en France, donc effectivement, il faut. D'accord. Ok. Qui veut conclure, peut-être? Il reste une ou deux minutes. Mais effectivement, oui, enfin, je relève ce que disait Cello. Hein. Moi, je trouve effectivement le lien avec les écoles d'art, il est extrêmement intéressant et il est particulier, je trouve. Enfin, dans nos échanges, ça m'avait frappé. Je trouve ça particulièrement intéressant, en tout cas.
Oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un de nos plus grands publics de curseurs. Ça m'étonne pas trop, mais c'est toujours surprenant quelque part. Je sais pas comment dire, mais quand on met des curseurs c'est à l'ERGUE, les étudiants qui font les illustrations viennent de l'ERGUE, c'est leur capacité, donc l'école de recherche graphique, ou à la Cambre, quand on met des curseurs là-bas, en fait, ça part comme des petits pains, quoi.
Ok, c'est chouette. C'est chouette. Beau partenariat. Bah, écoutez, oui. Je pense qu'on va devoir conclure là, et puis je vais repasser la parole à Étienne pour la fin de l'émission.
Bah merci, un grand merci à vous trois, c'était vraiment très intéressant de vous écouter, puis pour avoir eu la chance de voir un curseur dans les mains, c'est un beau journal dans le sens esthétique, mais aussi de qualité de contenu, donc je ne les ai pas tous lus, j'en ai feuilleté deux, mais voilà, je vous encourage à aller voir les articles et éventuellement à soutenir cette belle initiative. Et effectivement, nous allons à présent faire une pause musicale. Alors, nous allons écouter Crème par À la Claire Ensemble et on se retrouve juste après, toujours sur Cause Commune, La Voix des Possibles.
Ayo, j'en pantoufle, prends tout, roule le notebook. C'est légal au state, c'est légal au bout. Fuck, fuck, toutes tes pilules, fuck ta peau. Fuck des bidules, fuck des mollies, c'est pas poli. Je dis, moi j'suis high, de nitrelle, les roll up, le spliff. J'en pantalon, bitch. C'est ma bitch, j'réponds plus pas que c'est mon fond, ni c'est le grid. Trop occupé dans le vide, à m'inventer des beats. Mais les créneaux dans le coude, propre lit dans le vide. Mon char est fait en copim, mon téléphone en toupix. Comme ça que je rentrais dans l'équipe, en gros débile, fou fix. Check mes yeux sont fucked, sont perdus dans l'ensemble. Des conversations dans le trafic, j'écoutais raconter la vie.
Everything that is green is a cream that's healing on your mind. We get high, smoking trees, but we only smoking trees. And please give me the
spliff. Roll up the spliff, roll up the spliff, she can roll up the spliff, roll up the spliff, roll up the spliff, roll up the spliff. Yo, tu sors jamais du moule, ça pousse sur le patio doule. C'est pour ça que c'est pas cool, à faire pousser ça l'art dans aucune doule. Sylvain Raper, Doug Down chase the paper. Le couche pousse d'invalide là-bas, on exporte ça jusqu'au Denver. Remplir un primo, j'trouve ça moins deep qu'un alcoolique. Qui compte sa vie à 2 pouces de taf, 5 de même. Ask about it, tu zoom croise en blazer. C'est que j'trouve la vie plaisante, des journées où j'me sens baby. Tu sais que j'aime voir tout son baby.
Everything that is green is a cream that's healing on your mind. We get high smoking trees, but we only smoking trees. And please give me the seeds.
Roll up the spliff, roll up the spliff, roll up the spliff, she can roll up the spliff, she can roll up the spliff. Roll up the spliff, roll up, roll up the spliff, roll up.
Everything that is green is a cream that's healing on your mind. We get high smoking trees, but we only smoking trees.
Please give me the seed.
Nous venons d'écouter Crème par À la Claire Ensemble, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Ça s'abaille à ça.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Étienne Gonu de l'April, passons à notre dernier sujet. Alors nous allons poursuivre avec la rediffusion d'une chronique Que libérer d'autre que du logiciel proposée par nos amis d'Antanac. Une chronique initialement diffusée en février 2026, présentée par Isabelle Carrère, qui portait sur les assises de l'attention.
Eh bien voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des assises de l'attention. Je crois que j'avais ici ou là annoncé cet événement qui a lieu tous les deux ans. Et d'ailleurs, ici à Cause Commune, on avait en 2022 capté les tables rondes et échanges. Et du coup, j'ai fait de même cette année, 4 ans plus tard, donc le 24 janvier 2026. Alors de quoi s'agit-il? C'est amusant car le concept d'attention a d'abord été un sujet plutôt populaire, et vas-y, fais attention. Et un sujet philosophique avec les pensées et écrits de saint Augustin par exemple. Et ensuite, c'est, ai-je appris, en 1958 qu'un psychologue anglais, Donald Broadbent, a travaillé sa théorie du filtre attentionnel. Autrement dit, on a parfois besoin d'un canal unique pour penser, et ou pour réaliser quelque chose, et que parfois, plusieurs informations ne pouvaient pas être traitées à la fois. Mais voilà, le capitalisme étant passé par là, on parle depuis plusieurs décennies maintenant d'économie de l'attention. Les sciences de gestion, le management, etc. La façon dont les professionnels publicitaires ou autres marchands ont besoin de capter ou de conserver le plus longtemps possible l'attention des quidam, vu, n'est-ce pas, majoritairement comme des consommateurices avant tout. On sait que les algorithmes des réseaux antisociaux travaillent à cela et se font aider par les calculs des outils qualifiés à tort, de mon point de vue, d'intelligents, mais qui ont ou sont en effet parfois de jolis artifices. Bref, alors plusieurs personnes et collectifs se rassemblent ici ou là un peu partout dans le monde pour protester, empêcher, lutter contre les injonctions de plus en plus majeures d'être connecté en permanence, de se mettre un ou des fils à la patte, de toujours en fond de tâche et quoi qu'on fasse, être joignable, obligé ou attiré à regarder des écrans, sur un ordiphone, dans les espaces publics, à son travail, à l'école, pour prendre un billet de train ou un rendez-vous à la préfecture, etc. Le collectif Attention est organisateur de ces assises de l'attention que j'évoquais. Il est composé de 11 associations qui toutes sont indépendantes de l'industrie numérique et cela est important car on sait que plusieurs des GAFAM ou autres puissants, milliardaires ou pas, se gaussent de financer des œuvres et des actions menées par des associations qui du coup ne sont plus vraiment libres de leur dire et de leur faire. Alors, les 11 associations du collectif Attention sont Agir pour l'environnement, qui a à peu près, disent-ils, 25 000 adhérents, qui sont ou des associations ou des personnes. Et cet asso agit comme pression face aux politiques en mobilisant sur des thématiques diverses, dont le numérique et les impacts sur l'environnement. On a aussi Alerte Écran, qui est orienté sur la sauvegarde de l'enfance libre, scolairement indépendante du numérique dans ses apprentissages. Et il y a le CAUSE, collectif contre la surexposition aux écrans, qui, de même que Alerte Écran, Éducation numérique raisonnée, Enfance télé-danger, Grandir sans smartphone, Présent simple, vous voyez, ça fait beaucoup d'assos et toutes, en tout cas, sont toutes les sites constituées de parents, mais aussi de pédiatres, de psychologues, de psychomotriciens, motriciennes, qui luttent contre la présence incessante d'écrans devant les yeux des enfants et jeunes, au primaire, en collège ou au lycée. Pas à pas l'enfant, c'est une autre des assos qui est membre de ce collectif Attention, fait de même à propos des tout-petits, en PMI, en maternelle ou en crèche. Eh oui, il y a des écrans qui sont rentrés là aussi. HOP, bah voilà, halte à l'obsolescence programmée, on la présente plus ici, n'est-ce pas? Donc elle fédère les citoyens pour engager, citoyens, citoyennes, pour engager les décideurs publics et privés afin d'aller vers des produits durables et réparables. Elle agit par la sensibilisation des citoyens et citoyennes aux enjeux de l'allongement de la durée de vie et propose des solutions. Et les deux dernières assos qui font partie de ce collectif, donc Priartem, qui est une des premières ONG créées sur la problématique ondes santé-environnement, qui se bat par rapport aux risques liés à l'exposition aux ondes électromagnétiques. Et enfin, Lève les yeux. Lève les yeux, c'est une asso dont Antanac est membre et qui a constaté, comme nous, que la société était de plus en plus dépendante des écrans, ce qui entraîne de graves effets sur la santé, l'éducation, mais aussi le lien humain, l'environnement, les droits et la démocratie. Du coup, Lève les yeux promeut, elle aimerait bien promettre, mais elle ne peut pas promettre, elle n'a pas le pouvoir, donc elle promeut la déconnexion pour mieux préserver l'attention humaine, qu'on peut imaginer comme une ressource, certes, mais rare et précieuse. Voilà, et donc du coup, pendant ces assises-là, il y a eu plusieurs tables rondes. Dans l'une d'entre elles, il est débattu de point de vue, par exemple, est-ce qu'on peut réguler, imaginer des villes sobres? Et donc il y a des intervenants, intervenantes qui se sont dit, tiens, on pourrait peut-être profiter des élections municipales pour demander à chacun, chacune des candidates des positions plus tranchées, peut-être plus conformes à ce que tout le monde s'accorde à décrire comme vraiment pas supportable quant au numérique, son incidence sur nos vies, les ressources de la planète, le vivant, etc. Et donc, est-ce qu'on continue les écrans à l'école, puisque les villes peuvent faire des choses, alors pas sur le collège et sur le lycée, mais sur le primaire, elles peuvent. Ou bien est-ce qu'on continue avec la métropolisation et une bétonisation de plus en plus grande pour qu'on ait à nouveau encore et encore des data centers, etc. et qu'on soit dans des agents involontaires de ces rendements des industries numériques. Dans une autre table ronde, justement, il est débattu de cette question des stratégies d'influence des industries numériques et notamment, alors que c'est quand même des fonds publics qui sont en jeu tout le temps, de comment ça se passe de ce côté-là et comment des manipulations sont opérées par ceux qui ont besoin qu'on continue à regarder ailleurs pendant qu'ils engrangent des bénéfices de tous ordres. La stratégie de ces marchands de doute, j'aime bien la formule. Voilà, donc vous pouvez écouter toutes ces tables rondes-là, donc sur lesquelles on a fait cette captation, sur les podcasts de la radio, ici Cause Commune, et sur le web, vous allez les trouver très très facilement. Et donc du coup, personnellement, à Antanac, on est vraiment tous en train de se dire que on a maintenant les savoirs sur les incidences du numérique à tout craint, on a des enquêtes, on a des études, et pourtant tout continue comme si de rien n'était. Les institutions politiques traitent comme vérité des discours sur les bonnes utilisations de l'IAG et des technologies numériques partout dans les vies de tout le monde. Et donc du coup, on se dit que c'est peut-être vraiment le moment de se reposer des questions un peu plus fondamentales sur qu'est-ce qu'on veut là comme société demain matin et qu'est-ce qu'on prépare pour tous les jeunes, les enfants et les moins petits. Voilà, donc il y a plusieurs questions qui ont été posées à l'issue des tables rondes et je ne peux que vous recommander d'écouter ces échanges. Il y en a même un assez cocasse d'échange entre une ex-ministre de l'Éducation nationale et des participants à propos du plan numérique à l'école qui a été lancé en 2015. C'était qui la ministre de l'Éducation nationale en 2015? Vous vous rappelez? Allez.
Nadjad Vallaud-Belkacem?
Yes. Bravo. Voilà, donc il y a un échange assez comique avec elle dans ces podcasts. Je vous laisse en prendre connaissance. Voilà, à bientôt.
C'était Que libérer d'autres que du logiciel, présenté par Isabelle Carrère d'Antanac. Alors vous entendiez en fin d'enregistrement la voix de Frédéric Couchet qui avait animé l'émission en direct donc en février 2026. Et vous retrouverez les liens directs vers les podcasts présentés par Isabelle en lien dans la page de l'émission de ce jour sur libreavoue.org/282 du numéro de l'émission. Nous approchons de la fin de cette émission et nous allons terminer par quelques annonces. Alors, dans les annonces, du 21 au 25 juillet 2026 à Paris et en ligne se tiendront les Wikimania 2026 organisés par la Fondation Wikimedia autour du thème Liberté, Équité, Fiabilité. L'April aura le plaisir d'y tenir un stand vendredi 24 juillet après-midi, alors j'y serai d'ailleurs présent. L'April donnera également une conférence en compagnie de Framasoft et de linuxfr.org, j'ai presque fait la boulette, pour comprendre pourquoi contribuer au libre. Et pourquoi contribuer au libre, c'est un peu comme éditer une page sur Wikipédia. Alors je ne sais pas si des places sont encore disponibles, mais je vous invite à vous renseigner si vous allez sur place, mais normalement, ces conférences seront également en ligne si j'ai bien suivi. De l'autre côté de l'été, les 11, 12 et 13 septembre, l'April tiendra également un stand dans l'espace science et numérique de la Fête de l'Huma, donc là, un grand festival avec de nombreuses conférences organisées par le journal L'Humanité. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus le présenter. L'été sera globalement encore riche en événements. Je vous invite à consulter le site l'agenda du libre, agendadulibre.org, pour trouver ces événements en lien avec les logiciels libres et la culture libre près de chez vous, et ainsi que les associations qui les font vivre. L'occasion qui sait de sensibiliser vos proches aux libertés informatiques pendant cette pause estivale. Alors notre émission se termine. Alors j'ai oublié de lancer le générique, excusez-moi, je... Priorité au direct. Voilà, c'est les problèmes qu'on anime et qu'on fait la régie en même temps. Bref, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Benjamin B, Lamy, Laurent Costi, Cello, HGO, Isabelle Carrère et Frédéric Couchet. Au malade de la régie aujourd'hui, donc moi-même, je remercie les personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Sébastien Chopin, Elodie Daniel Girondon, Nicolas Graner, Julien Haussmann, Languin, bénévole à l'April, ainsi qu'Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également aux personnes qui découpent les podcasts complets en podcasts individuels par sujet. Quentin Gibaud, Théocrite, Tinui, bénévole à l'April, Frédéric Couchet, mon collègue. Et merci à Marie-Odile au groupe Transcription qui permet d'avoir une version texte de nos émissions. Et c'était donc la dernière de cette 9e saison de Libre à vous que vous découvrez. Donc merci à toutes les personnes qui les écoutent. On se retrouve pour une 10e saison à partir de septembre 2026, sans doute mardi 8, pour un programme que nous sommes encore en train d'établir. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée et un bel été. N'oubliez pas vos bracelets et on se retrouve en septembre. Et d'ici là, portez-vous bien.
Cause commune, retour sur 93.1 à 21h et retrouvez nos programmes sur cause-commune.fm.